Décryptage, Marie Cazadebé.
En cette journée mondiale de la Terre, on s'intéresse dans Décryptage aux citoyens qui se mobilisent pour la sauver. Le militantisme prend des formes nouvelles ces derniers mois, de la grève des collégiens et lycéens à la désobéissance civile, en passant par les pétitions et les manifestations. L'inquiétude s'exprime de différentes façons, mais pour quels résultats? Qui sont ces nouveaux militants écolos? Quelles sont leurs revendications? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Maxime Gabory.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collectif de sociologues Quantité Critique, chargé de cours aussi à Sciences Po. Et bonsoir Pauline Boyer.
Bonsoir.
Porte-parole des associations écologistes Alternatiba et Action non-violente, COP21. Cela fait donc un peu moins d'un an qu'on assiste, en France notamment, mais c'est pas forcément le seul pays qui connaît ça, à une multiplication d'actions pour le climat, avec, je le disais, des formes très variées. Maxime Gabory, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à ces nouvelles initiatives?
Alors, je pense pas qu'il y ait un seul élément déclencheur, mais il y en a eu plusieurs. D'abord, il y a eu le rapport du GIEC cet été, qui a été pour beaucoup un élément déclencheur de la mobilisation. Et puis, il y a eu aussi en septembre la démission très médiatisée de Nicolas Hulot, qui a pu donner l'impression d'une faillite véritablement du gouvernement sur les questions écologiques, et qui a fait que finalement, en septembre, la rentrée sociale s'est faite sur la question écologique, et que depuis septembre, cette mobilisation ne faiblit pas et prend différentes formes.
Pauline Boyer, qu'est-ce que ça révèle selon vous? Parce que là, on parle de modes d'action très différentes entre vraiment une mobilisation, une adhésion à une association, ou tout simplement sortir de chez soi et marcher. Qu'est-ce que ça révèle finalement des attentes des Français, ou plus largement des gens qui s'inquiètent pour le climat?
Ça révèle une prise de conscience accélérée de plus en plus de personnes qui ne se contentent plus de se dire « Ah oui, il y a un problème avec le climat », mais c'est aller plus loin, passer à l'action. Et effectivement, les marches ont vraiment révélé ce besoin-là. Et souvent, les gens, après les marches, nous disent « Bon, bah c'était super, mais qu'est-ce qu'on fait après ?» Et il y a toute une séquence là qui s'est enchaînée de multiplication des marches jusqu'à la marche du siècle le 16 mars dernier, avec qui était une marche sans précédent en termes de fréquentation au niveau de la France. Plus de 300 000 personnes ont marché pour le climat et la justice sociale. Il y a eu en même temps, donc au mois de décembre, l'affaire du siècle qui a déposé un recours en justice contre l'État pour une action climatique, qui a été soutenue par 2 millions de personnes. Pareil, du jamais vu dans l'histoire des pétitions, et spécialement pour le climat. Et on a le 19 avril, donc vendredi dernier, la plus grosse action de désobéissance civile de masse pour le climat organisée par trois mouvements, qui à laquelle ont participé plus de 2000 personnes, dont les trois quarts sont passés à la désobéissance civile lors de cette action. Donc on voit vraiment que là, il y a vraiment une séquence qui de montée en puissance du mouvement citoyen avec différents modes d'action.
On va détailler justement ces modes d'action, mais Maxime Gabory, est-ce que face à l'ampleur du phénomène du réchauffement climatique et de ses conséquences qui parfois nous donnent l'impression qu'on est impuissant, est-ce que finalement ça démontre pas une forme d'appropriation de la question environnementale? On n'en peut plus subir, alors on agit, et on agit finalement aussi à sa portée.
Ben, voilà, il y a cette dimension-là d'essayer aujourd'hui d'interpeller l'État directement, et non plus comme c'est très longtemps organisé finalement le discours écologique un peu dominant, qui était de considérer que c'était aux individus eux-mêmes de changer leur pratique de vie. Il y a eu, avec le rapport du GIEC et avec ces différents événements, l'idée que le changement, si changement il doit y avoir, il se fera à un niveau beaucoup plus global. Et c'est du coup un certain nombre de citoyens, alors qu'ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un petit peu dans le détail qui sont ces gens, on se rend compte que socialement, ils sont situés et font partie particulièrement des classes sociales supérieures, souvent des cadres et professions intellectuelles supérieures ou des professions intermédiaires, et qui d'ailleurs ne sont pas, comme on le croit souvent, représentant de l'ensemble des opinions politiques du pays, comme si le mouvement écologique arrivait à aller au-delà de l'ensemble des clivages politiques, parce que la grande majorité des gens qui se mobilisent depuis septembre sont des gens qui se disent à gauche et qui n'ont pas peur d'afficher des opinions politiques, y compris anticapitalistes.
Est-ce qu'il y a une génération qui est moteur de ce nouvel élan militant ? Je pense aux plus jeunes, aux moins de 25 ans, qui semblent un peu se révéler aussi à travers cette mobilisation et cette question environnementale.
Alors, effectivement, il y a une mobilisation des jeunes qui est de plus en plus importante qui a plusieurs causes, notamment le fait que Greta Thunberg est apparue au niveau international.
La jeune militante suédoise.
Absolument. Et puis l'idée du grève pour le climat, de grève étudiante et lycéenne pour le climat. Mais je crois qu'il faut quand même faire attention avec le discours de génération et notamment le discours d'une génération rebelle qui, face au mépris des générations passées, elles prendraient le relais. Quand on regarde les différentes mobilisations qui ne sont pas les mobilisations uniquement des jeunes, au final, il y a très peu de différence entre les adultes et les moins de 25 ans. Ils ont à peu près les mêmes opinions politiques, les mêmes degrés de radicalité, et il n'y a pas véritablement de rupture entre différentes générations.
Pauline Boyer, c'est ce que vous constatez au sein des ONG pour lesquelles vous êtes porte-parole. Il n'y a pas une génération qui en veut à ses aînés d'avoir laissé la planète dans cet état-là. Il n'y a pas de choc des générations dans la mobilisation écologiste.
Alors, Alternatiba et ANVECOP 21 sont des mouvements citoyens, mais bon, c'est pas très important. Au sein de nos mouvements, on a une prédominance de jeunes, mais ça reste intergénérationnel. Et ça, c'est important parce que le dérèglement climatique, il concerne tout le monde et on a besoin que tout le monde s'investisse pour lutter contre ce système qui nous emmène vers le chaos climatique. Mais pour autant, on a des méthodes d'organisation dans nos mouvements qui parlent beaucoup aux jeunes, avec des méthodes d'animation de réunions assez efficaces, où on fait attention au temps de chacun, de chacune. On applique vraiment le principe de parité. On fait attention en fait à la manière dont on passe à l'action et dont on s'organise. Et donc on a vraiment une majorité de jeunes et beaucoup de femmes également. Mais ça reste intergénérationnel et je pense que c'est essentiel que ça le reste.
Alors tous les jeunes ne sont évidemment pas impliqués, mais ils étaient tout de même donc 168 000 à sécher les cours le 15 mars dernier un peu partout en France, comme ces deux collégiennes rencontrées par notre reporter, des collégiennes de 14 ans donc à Paris.
Aujourd'hui, on est là pour manifester pour le climat et pour faire surtout comprendre aux gens qui ont du pouvoir, donc le gouvernement, que s'ils font rien, d'accord. Mais nous, dans ce cas, on fera bouger les choses nous-mêmes.
On n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas ce qu'il faut, parce que ceux qui peuvent faire le plus de choses ne font rien et ils nous ignorent. Dans les cantines, ils nous servent tous les jours de la viande de mauvaise qualité. Et il y aurait plein de petites choses à faire que le gouvernement ne fait pas et qui sauveraient énormément de choses.
Et la seule chose que mon école a fait, c'est de nous proposer aujourd'hui de faire un débat, d'en parler. Sauf que nous, on vient ici, en tout cas moi je viens ici parce que j'en ai marre de parler, mais qu'au final, on voit que les politiques ne font rien ou très peu et on en a marre.
On voit rarement les jeunes français dans la rue, hein, sauf pour des sujets qui les concernent directement. Et je pense par exemple aux réformes dans le secteur scolaire. Pauline Boyer, qu'est-ce qui explique, à votre avis, leur implication ?
Alors, je pense que si on regarde la vie qu'avaient nos parents, nos grands-parents et la vie qu'on a, elle est différente. Et ça va être le cas pour les années à venir. Enfin, il faut savoir qu'à chaque fois, la vie évolue. Sauf que là, la vie, elle va évoluer de manière radicale et que on a besoin vraiment d'imaginer complètement de nouvelles façons de vivre. Et là, on entend bien toute la rage qu'il y a du fait que, en fait, on est dans un mode de vie qui est insoutenable. Et les jeunes qui s'en rendent compte, eh bien, après, forcément, ils sont en colère. Et nous aussi, on est en colère. Et cette envie de changement, là, je pense que c'est un énorme espoir. Parce que plus le changement arrivera vite, et moins il sera difficile à subir pour tout le monde.
Maxime Gabory, contrairement à ses aînés, c'est une génération qui est née aussi dans la peur de l'avenir.
Je crois que effectivement, vous l'avez dit, une des dimensions pour comprendre la mobilisation climatique, et qui est peut-être d'ailleurs une des clés aussi pour comprendre les autres mobilisations en cours, et notamment les Gilets jaunes, c'est la question de l'urgence. Il y a un sentiment d'urgence qui se ressent. Alors chez les Gilets jaunes, c'était une urgence sociale et une urgence pour vivre. Et là c'est une urgence pour l'environnement et pour la Terre en tant que telle, qui fait qu'un certain nombre de citoyens et de jeunes aujourd'hui se mobilisent et refusent simplement le débat, la discussion comme seul mode d'action, mais décide de prendre les choses en main, de descendre dans la rue et de dire ce qu'ils ont à dire.
Alors le lendemain de cette journée de grève des collégiens lycéens a eu lieu la marche du siècle, des manifestations aux quatre coins du monde, 100 000 personnes à Paris, plus de 300 000 dans le reste du pays.
Des paroles mais pas d'actes, alors que M. Macron dit qu'il faut passer à l'action, mais on se demande ce qu'il attend.
Faut se dépêcher, faut mettre des sous, faut agir. Depuis la COP21, ça fait 4 ans, on n'a rien fait. Les émissions sont toujours les mêmes, il faut absolument bouger. Et il n'y a pas une conscience politique qui est là. Donc il faut que la société civile, que les ONG, que les étudiants, que les lycéens, eh bien, ils se manifestent parce que c'est leur futur qui est en jeu.
Maxime Gabory, ce sont en gros les parents des collégiens et lycéens qu'on a entendus un peu plus tôt, qui ont manifesté par exemple le 16 mars dernier.
Je crois que vous avez tout à fait raison, dans la mesure où il y a une vraie filiation entre ces jeunes qui se mobilisent et leurs aînés. C'est-à-dire qu'ils ont souvent la même orientation politique et il y a une conscience qui se transmet, une sorte de filiation, et c'est un certain nombre de leurs aînés qui se sont mobilisés le 16 pour, encore une fois, essayer de démontrer que cette idée qu'on peut résoudre le changement climatique avec des petits pas, avec des micro-réformes, ne suffit plus, et que le changement, il doit être de plus en plus radical.
Avant qu'on en vienne à la désobéissance civile, une autre forme de mobilisation, la pétition, vous l'évoquiez tout à l'heure, Pauline Boyer, notre affaire à tous, 4 ONG donc, qui attaquent la France pour une action climatique, plus de 2 millions de Français la signent. Maxime Gabory, est-ce qu'on sait qui elle a touché?
Alors, on ne sait pas exactement qui l'a signé, mais il y a quelques indicateurs qui permettent de donner quelques pistes et qui permettent d'ailleurs de modérer certaines idées reçues. Alors, je m'explique, dans les mobilisations climat, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est davantage des classes supérieures qui sont mobilisées. Et les classes plus populaires ne se reconnaissent pas véritablement dans les modes d'action qui aujourd'hui sont proposés. Mais ça ne témoigne absolument pas d'un anti-écologisme des classes populaires. Je crois que ça serait faire une analyse un peu trop rapide, et notamment parce que au lendemain de l'affaire du siècle, en regardant un peu les sondages sur des échantillons nationaux, on s'aperçoit qu'à peu près toutes les classes sociales on parlait à peu près autant de cette pétition de l'affaire du siècle qui a touché à peu près l'ensemble des classes sociales en France. Ça signifie qu'il y a des formes d'écologie populaire qui ne se retrouvent pas encore dans les mobilisations climat telles qu'elles se font depuis septembre, mais qui doit interroger, à mon sens, les organisateurs sur la manière de récupérer aujourd'hui.
Alors, je vais me tourner vers Pauline Boyer. Est-ce que c'est un objectif aussi d'attirer des classes plus populaires? Là, on parlait de jeunes, pourquoi pas de jeunes de banlieue ou des campagnes? C'est peut-être les jeunes qu'on a moins vus effectivement se mobiliser. Est-ce que c'est une question que on se pose dans les mouvements citoyens pour lesquels vous travaillez?
Alors oui, c'est sûr, c'est une question qu'on se pose. Le 16 mars, on a organisé une convergence avec la marche des solidarités contre les répressions policières qui sont très fortes justement dans les quartiers, dans les banlieues. Et c'était déjà un premier pas. On avait fait une conférence de presse ensemble. À la fin, il y avait des prises de parole auxquelles, eh bien, Assa Traoré et d'autres collectifs ont participé. Et donc il y a cette volonté en tout cas on y pense beaucoup. On est en lien aussi avec ATD Quart Monde qui se bat pour les conditions de vie des personnes en situation de grande précarité. Donc on est en train de tisser des liens. On avance beaucoup moins vite sur cette question-là que le reste, mais c'est quelque chose qui va avec, en fait, parce que les premières personnes qui vont être impactées par le dérèglement climatique, c'est aussi les personnes qui sont en situation de précarité ou qui sont moins bien loties dans la population.
Alors, certains estiment que ne pas aller en cours ou marcher un samedi n'est pas assez dérangeant pour que ces actions aient des répercussions. Au Royaume-Uni, l'ONG Extinction Rebellion a bloqué pendant une semaine, donc jusqu'à ce dimanche, plusieurs sites très fréquentés du centre de Londres.
Nous sommes un mouvement pacifique. Nous sommes des citoyens inquiets qui ont essayé d'obtenir des actes des gouvernements de notre pays pendant de nombreuses années. Et nous en sommes arrivés à un point où nous pensons que la seule option que nous avons est la désobéissance civile pacifique.
Nous parlons de l'avenir de la vie humaine sur la planète et de l'avenir de toute autre biodiversité. Et pour pouvoir protéger ça, il faut tout faire. Même se faire arrêter, c'est rien. Je ne peux pas rentrer à la maison, ignorer tout et essayer de mener une vie normale maintenant.
Alors les ONG pour lesquelles vous travaillez, Pauline Boyer, donc Action Non Violente COP21, était co-organisatrice d'une action de désobéissance civile vendredi dernier dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris. Maxime Gabory, la désobéissance civile et le militantisme écologique, c'est pas nouveau ça?
Non, c'est absolument pas nouveau. Et depuis cette mobilisation qui a commencé en septembre, je crois qu'on peut dire que les liens entre les deux se sont intensifiés et qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on remarque avec le collectif Quantité Critique, quand on pose la question des modes d'action qui sont acceptés, la désobéissance civile, c'est-à-dire bloquer des infrastructures polluantes ou quelque chose comme ce qui s'est fait vendredi, sont acceptés par l'ensemble des participants. Environ 50% des gens seraient prêts à le faire et 50% simplement à le soutenir, mais il y a que 5 à 6% de gens qui seraient contre le fait d'organiser des actions de désobéissance civile.
On a l'impression quand même que par rapport à une certaine période, il y a peut-être 10 ans, la cible des actions a changé, Pauline Boyer. Les décideurs plutôt que les pollueurs, on peut résumer ça comme ça?
Alors, dans le contexte actuel d'urgence sociale et d'urgence climatique, on estime que tout dirigeant politique qui a le pouvoir de flécher les financements, qui a le pouvoir d'influer sur les lois, eh bien, il devrait prendre ses responsabilités et prendre des mesures concrètes maintenant et ambitieuses qui sont à la hauteur de l'enjeu. Et donc, effectivement, quand on cible Macron, président des pollueurs, eh bien, c'est pour envoyer un signal fort de on est dans un système qui ne fonctionne pas, et le représentant de ce système, c'est le président de la République.
Est-ce que ça veut dire que vous avez conscience d'une urgence dont le gouvernement n'a pas encore vraiment conscience? Comment vous pourriez nous dire, en fait, parce qu'on a l'impression que vous faites la leçon, là, au gouvernement,
mais,
au président
Mais c'est ce qu'on... En fait, dans ces actes, dans ces discours, on a l'impression que oui, ils ont compris ce qui est l'urgence et dans quelle situation on est, mais les actes ne suivent pas du tout. Et nous, on s'en moque des beaux discours. On a besoin d'actes maintenant parce que on a ce sentiment d'urgence qui est en nous. On sait que on est dans les dernières années où on peut faire changer les choses. Et après, ça va être beaucoup plus compliqué de faire émerger une société soutenable, mais aussi vivable et dans des conditions dignes pour la plupart des gens.
Alors pour conclure, juste, il nous reste quelques secondes, Maxime Gabory. Là, on voit que ce sont des mouvements non violents, pacifistes. C'est d'ailleurs très important de le souligner. Est-ce qu'on voit aussi apparaître des formes violentes de militantisme écologique?
Pour l'instant, il y en a assez peu, mais c'est pas pour ça que personne ne soutiendrait ces formes d'action-là. Alors, il faut savoir ce qu'on entend par violent. Ça peut simplement être dégrader des industries polluantes. Et là, on voit qu'il y a une minorité aujourd'hui des manifestants qui sont prêts à le faire. Reste à savoir ce que la mobilisation et la conscience de l'urgence engendrera en termes de soutien ou non à ces formes d'action un peu plus radicales.
L'illégalité, justement, justifiée par cette forme d'urgence. Merci à vous deux, Maxime Gabory, donc membre du collectif des sociologues Quantité Critique, et Pauline Boyer, porte-parole des associations Alternatiba et Action Non Violente COP21, j'aurais eu du mal. Merci à Éléonore Krenik, Françoise Delignon, Charles Barré et Hélène Avril qui m'ont aidé à préparer cette émission. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.